Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors, une petite annonce. Pour commencer cette émission, nous arrivons peu à peu, chers auditeurs, dans la période des grandes vacances et pour information, nous cesserons de mettre en ligne nos deux émissions par semaine, ceci de la mi-juillet jusqu'environ, je pense, la troisième semaine d'août. Nous nous retrouverons donc soit le 22 ou bien le 26 août. Mais vous ne le savez peut-être pas, Storia Voce a près de 200 émissions dans son répertoire et ce, pour toutes les périodes, le meilleur moyen d'y accéder est de se rendre sur notre site storiavoce.com, pas seulement donc sur YouTube ou bien sur SoundCloud. Toutes les émissions sur notre site sont classées, elles sont classées par période, elles sont classées par thème, aussi par professeur. Restez donc en notre compagnie toutes ces vacances et écoutez Storia Voce sur la plage. Alors je souhaiterais commencer cette émission par un extrait un peu long. Mon père, je ne saurais me plaindre, car à moi surtout, vous donnez toujours plus que je ne mérite. Je ne voudrais pas, d'ailleurs, ajouter le dégoût des plaintes à ceux qui vous viennent de mon âme, terre tant cultivée et si improductive. Mais depuis le 24, je n'ai pas eu un mot de vous, et cependant, mes lettres vous ont dit les graves perplexités où tout à coup je me trouvais jeté par suite des lumières qui me viennent de Dieu, de vous et de ma conscience. Je ne saurais assurément me débrouiller seul, faisant une grande confusion de ce qui est péché, mauvaise inclination et passion mauvaise, tantôt me croyant très innocente et ensuite et plus justement, hélas, me voyant coupable et très coupable. Ces quelques mots que je viens de vous lire sont tirés d'une lettre, donc, une lettre d'Artémine de Menton. Artémine de Menton a vécu au XIXe siècle. Il s'agit d'une femme mariée, elle est mère de 4 enfants, et elle écrit ici à ce qu'on appelle son directeur de conscience. Ce directeur a un nom, il s'agit ici de Monseigneur Dupanloup, une des grandes figures catholiques de son temps. Or, cette lettre caractérise au sens propre l'histoire du catholicisme du XIXe siècle. En tout cas, elle illustre un pan de son histoire, de sa large histoire. C'est pourquoi Storia Voce vous propose de partir au plus près des âmes et des corps en se plongeant dans ce qu'on peut appeler véritablement une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Caroline Muller, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et vous venez de publier, je viens de donner le titre dans mon introduction, un livre que j'ai trouvé extrêmement délicat dans la forme, mais aussi le fond, parce que c'est un sujet difficile, d'évoquer l'intimité des gens, donc au plus près des âmes et des corps. Le titre en lui-même est magnifique, « Une histoire intime des catholiques au XIXe siècle ». Je viens de le dire, ce livre est un livre consacré à la relation si particulière entre les fidèles catholiques, ou on va dire certains fidèles catholiques, on va y revenir, et leur directeur de conscience. Comment définir un directeur de conscience ou la direction de conscience?
La direction de conscience, c'est une pratique de conseil, c'est-à-dire un catholique qui va estimer qu'il a besoin, pour progresser, d'avoir un conseil ou des consignes, parfois, ça dépend. Donc à partir de là, on sollicite un père jésuite, dominicain, selon ses réseaux et ses projets. Et puis, on lui demande d'assurer un suivi de son âme, un suivi épistolaire, dans mon cas, puisqu'en fait, mes sources, ce sont des sources épistolaires. Et puis, on se fixe un cadre, à quel rythme on va se parler, quels objectifs on se fixe. Et pour que tout ceci fonctionne bien, il faut que la personne dirigée, le ou la dirigée, accepte de régulièrement faire son examen de conscience par écrit, et raconter sa vie dans tous ses aspects, que ce soit les aspects moraux, les aspects conjugaux, les aspects les plus intimes aussi, les questions de sexualité, autant que les questions de spiritualité.
Pourquoi voilà. Cette direction de conscience? Pourquoi, comment a-t-on, comment vient-on finalement à la direction de conscience? C'est pour devenir meilleur dans sa foi?
Oui, alors ça c'est le cadre théorique et spirituel. Parce qu'en fait, certes, il y a des motivations spirituelles, mais ce dont je me suis rendu compte en travaillant aussi, c'est que beaucoup de ces pénitents viennent aussi là pour trouver une oreille, une écoute, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir d'autres espaces de discussion pour certains problèmes. Donc, il y a la motivation de devenir meilleur, de progresser sur le plan moral, mais il y a aussi d'autres motivations qui se recoupent, se superposent, qui ont trait à ce que la personne pense être bon pour elle, en fait. Mais bien au-delà de l'aspect moral, il n'y a pas que l'aspect moral et spirituel.
Pourquoi le succès de cette pratique à cette époque? C'est une pratique qui existait avant, à l'époque moderne?
Oui, tout à fait. C'est même plutôt l'âge d'or, hein, l'époque moderne. Le grand moment de la direction de conscience, c'est le XVIIe siècle. Grand moment parce qu'on forge des modèles avec des grands directeurs, par exemple François de Sales ou des gens comme Fénelon. Et d'ailleurs, la direction du XIXe siècle s'inspire parfois, voire beaucoup, de la direction du XVIIe siècle, au sens où les cadres, les manuels de morale, les références littéraires aussi, sont sensiblement les mêmes. Simplement, cette pratique-là connaît un certain déclin au XVIIIe siècle parce qu'elle est très attaquée. Très attaqué par les anticléricaux, très attaqué sur la question de politique aussi. On accuse les directeurs de, en fait, des hypocrites, des gens qui détournent les femmes de leurs devoirs en particulier. Et donc, il y a une sorte de déclin lié aux représentations attachées aux directeurs de conscience. Au XIXe siècle, c'est un nouveau succès. Alors moi, je le date à peu près des années 1830-1840 parce que quand j'ai consulté les archives, c'est à ce moment-là à peu près que je vois arriver les lettres de direction, les correspondances. Et nouveau succès qui est lié en fait au contexte un petit peu particulier à la fois de l'Église catholique, mais aussi des nouvelles attentes que les gens du XIXe siècle ont, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des gens du XVIIe siècle.
Alors, sur Storia Voce, on accorde une importance particulière aux sources, vous les avez un peu effleurées. Quel a été votre travail de source? On a encore, vous parliez de correspondance, on a à la fois les réponses des prêtres et les envois des fidèles?
Ça dépend beaucoup des corpus. Il est quand même rare d'avoir à la fois la correspondance active et la correspondance passive, c'est-à-dire d'avoir d'un bout à l'autre toute l'intégralité des échanges, en fait. Le cas le plus fréquent, c'est plutôt « j'ai une voix ». Soit la voix du dirigé, soit la voix du directeur. Et ces lettres-là, en fait, je les ai trouvées parce que la plupart des directeurs et des dirigés ont désobéi, puisque techniquement, la direction de conscience est censée être une pratique orale. Si vous vous en tenez au manuel de morale, au manuel de bonne conduite, etc., eh bien, vous voyez l'interdiction complète de l'écriture épistolaire. Parce que le problème, c'est que quand on écrit, on risque de se noyer dans ses propres sentiments. Je cite. Donc avec ce risque que la lettre en fait soit un moyen de s'observer uniquement pour s'observer pour le plaisir de soi et non pas l'observation à but moral. Et pourtant, ils écrivent tous, parce qu'on est dans un environnement social, dans un milieu social où se voir régulièrement est difficile parce que tout le monde se déplace pour répondre à différents devoirs mondains, charitables, etc.
Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est de voir, tout à l'heure j'évoquais Monseigneur Dupanloup, mais il y a d'autres noms qui sont des grandes figures du catholicisme, comme Baudrillard. Baudrillard, on a tous ces...
Ces carnets.
Tous ces carnets qui ont été publiés par Étienne Fouillot, si mes souvenirs sont bons, qui sont absolument remarquables. Ce sont des hommes qui trouvaient encore le temps de faire de la direction de conscience et d'être pleinement auprès des âmes, alors que ce sont des grands intellectuels.
Oui, ça c'est quelque chose d'assez fascinant. le temps consacré à la correspondance. Parce que, par exemple, Monseigneur Dupanloup, quand il écrit aux hommes et aux femmes qu'il dirige pour s'excuser parce qu'il est en retard, etc., c'est un motif classique, en fait, de la lettre de direction, de s'excuser de pourquoi on n'y a pas écrit. Vous, dans l'extrait que vous citiez au tout début, là, c'est exactement ça. Hein, c'est « Vous ne m'avez pas écrit, qu'est-ce qui se passe ?» Et ben, Monseigneur Dupanloup, lui, ce qu'il répond, c'est « Écoutez, j'avais des choses urgentes, j'ai écrit 2 heures mon courrier, mais au bout de 2 heures, il fallait que j'aille donner ma messe ou au confessionnal ou en retraite et c'est pour ça que je suis très en retard. » Donc effectivement, c'est ça s'intègre aussi dans un emploi du temps où il y a tout de même un continuum parce que entre être au confessionnal et confesser et la direction de conscience épistolaire, les directeurs, ils voient un ensemble cohérent. C'est-à-dire que pour eux, ça fait partie de la charge d'âme de diriger.
Mais est-ce qu'il y a, au même titre qu'il y a un secret de la confession, est-ce qu'il y a un secret de la direction ?
C'est une très grosse discussion. Certains estiment que oui, de manière très ferme, que c'est en fait
un secret professionnel.
Mais ce qui est un petit peu compliqué, je suis désolée, c'est un tout petit peu complexe, c'est que tout le monde s'accorde sur le fait que les informations doivent rester confidentielles, mais tout le monde compte aussi dans certains contextes sur le fait que le directeur soit suffisamment intelligent pour divulguer certaines informations. Par exemple, dans le cas des négociations de mariage, eh bien, on compte sur le directeur de conscience pour connaître des informations sur les autres familles, sur l'état des corps, sur la santé des autres candidats, et qu'il soit capable, en fait, de divulguer juste la bonne dose de secret pour que ça ne mette personne, en fait, en difficulté. C'est ce que j'appelle le secret bien divulgué. Voilà.
Alors, je voudrais revenir quand même sur le contexte que nous avons d'ailleurs évoqué avant d'enregistrer cette émission. Nous sommes au 19e siècle. C'est un siècle particulier parce qu'on sort de la Révolution, et ce qu'on lit à travers votre ouvrage, ce qu'on voit à travers votre ouvrage, c'est qu'il y a une vraie culture de soi. Je ne vais pas dire une culture de l'ego, parce que ce serait un peu péjoratif, mais même si il y a des lettres qui
on
sont
pourrait.
Une culture de l'ego,
on pourrait, bien sûr.
Mais on n'imagine pas dans ce siècle une telle culture de soi, pourtant elle existe bel et bien.
La plupart des historiens et des historiennes datent justement du 19e siècle, le développement de cette culture de soi, avec différents indices, les développements de ce qu'on appelle aujourd'hui les égo-documents, les journaux personnels, qu'on appelle aussi journaux intimes, parfois peut-être un peu à tort ou en exagérant. Donc il y a ça, il y a les lettres aux médecins par exemple, toutes ces formes qui visent à s'explorer. Et le courrier en est une. Donc, en fait, le 19e siècle est sans doute le moment où naît cette question de l'individu, cette légitimité de l'individu à s'explorer, à s'observer. Cette idée que si on veut bien agir et être heureux, il faut se connaître. Donc, pour pouvoir se connaître, on est un petit peu obligé de passer par des pratiques, des dispositifs où on va s'observer, essayer de voir comment on évolue. Et la direction de conscience, certes, c'est une pratique spirituelle, mais c'est aussi une pratique de soi. Puisque le soir, pour préparer sa lettre, etc., on est d'abord obligé d'examiner qu'est-ce qu'on a fait les derniers jours, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, mais qu'est-ce qu'on a fait tout court aussi, qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a ressenti.
Et on ne peut pas se juger soi-même, d'où la direction de conscience.
Exactement. C'est l'idée que, c'est aussi l'extrait que vous avez lu au tout début, c'est que on aura beau essayer soi-même d'appliquer les catégories qu'on connaît, les catégories morales, parce que tous ces gens ont aussi une culture religieuse, une culture spirituelle, avec des catégories qui sont celles de la confession. Théoriquement, ils savent distinguer ce qui est péché de ce qui ne l'est pas. Mais il y a toujours ce soupçon de se tromper sur soi-même. Autrement dit, la direction de conscience, c'est une pratique où on essaie de se connaître toujours plus, mais où on doute toujours de la connaissance qu'on a de soi en termes moraux.
Parce qu'il y a, j'allais dire, la perfection est une chose continue qui est à cultiver.
C'est une de mes hypothèses qui n'est pas tout à fait dans le livre, enfin c'est un peu en filigrane. C'est aussi que le 19e siècle, c'est un moment où on commence à penser l'âme en termes de profondeur insondable. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir les choses comme un puits. Et en fait, le puits, il n'a pas de fond. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le développement de toutes ces pratiques de soi, parce qu'on veut, on doit aller creuser de plus en plus loin. Or, si on va creuser de plus en plus loin, on a besoin de pratiques, de techniques pour faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a, par exemple, des tableaux. Dans le livre, je reproduis un tableau d'examen de conscience où, c'est au tout début, je crois que c'est même la troisième page, où dans ce tableau, c'est Marie Rakoska, elle se donne des notes sur tout un tas de critères. Et quand on donne des notes, effectivement, c'est pour juger si on a progressé, si on a avancé vers un bien. Et pour moi, ça, ce type de tableau, c'est très spécifique au 19e siècle. J'en vois pas de traces, en fait. C'est une manière de se quantifier, d'essayer d'évaluer jusqu'où on est allé sur le moindre détail. Ça demande une énergie considérable. Et de ce point de vue-là, je suis parfois assez admirative du temps consacré à faire son examen avec tous ces outils.
Alors, il y a un autre contexte qui est extrêmement important et même capital hein, pour comprendre ce livre, c'est que la société est régie par le Code civil hein, de 1804 et nous sommes dans une société qui enracine, c'est votre terme, juridiquement, les inégalités dans la famille. C'est-à-dire, dans notre propos au cours de cette émission, il ne faut pas voir l'Église, on critique souvent l'Église pour sa conception, pour ses conceptions. La femme n'est pas l'égale de l'homme dans le cadre de la cellule familiale, ses devoirs ne sont pas ceux des hommes.
Non, et de ce point de vue-là, en fait, le discours de l'Église catholique sur le genre et sur les rôles des hommes et des femmes, des maris et des épouses, rejoint très largement le discours de toutes sortes d'autres autorités. Les autorités médicales, le Code civil, effectivement, et puis bien d'autres. Donc, en fait, il faudrait se garder de faire des directeurs de conscience ou des confesseurs les promoteurs de valeurs inégalitaires dans leur coin, en fait. Ouais. Hein, pas du tout. Hein. Ils relaient, confortent, parfois discutent et négocient, hein, quand même, un discours général sur la répartition des rôles, sur les rôles de genre, la naturalisation des sexes.
Alors, il y a une chose qui m'a marqué. On a l'habitude de dire que si on ne donnait pas le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'elles étaient considérées comme catholiques au début du XXe siècle. Et moi, je vois, à travers la lecture de votre ouvrage, une sorte de confirmation dans la mesure où le XIXe est un siècle catholique féminin.
Alors oui, ça se discute aussi un peu. J'espère quand même que dans mon dernier chapitre, vous avez pu voir que les hommes sont aussi catholiques, mais ils le sont de manière un peu moins visible différente, parce que ça leur coûte plus de l'afficher aussi. Donc ça faudra aussi en discuter.
Ce que ne savent pas les auditeurs, c'est que donc l'ensemble de votre livre est quasiment exclusivement consacré aux femmes et aux correspondances.
Les directeurs de conscience sont des hommes.
Et les directeurs de conscience sont des hommes, mais en tous les cas pour les fidèles. Et votre tout dernier chapitre, lui est consacré aux hommes. Voilà.
Oui, parce qu'il y a des hommes dirigés aussi.
Donc, est-ce qu'on peut parler d'une féminisation du catholicisme français au XIXe siècle?
Ça dépend. Parce que dans ce motif historiographique de la féminisation, les historiens, les historiennes, oui, considèrent qu'il y a eu une féminisation du catholicisme, mais il y a quand même plusieurs choses. Il y a la question de la féminisation du personnel religieux. Et là, il est clair que les congrégations féminines explosent en nombre. On a de plus en plus de femmes qui rentrent dans les congrégations, enseignantes, soignantes, etc. Mais ça, on le sait un petit peu depuis le grand travail de Claude Langlois, hein, qui avait écrit Le catholicisme au féminin. Après, si on regarde la question des pratiques, cette fois, des pratiques qui sont pas forcément les pratiques des religieuses, là aussi, les grandes enquêtes diocésaines, les grandes enquêtes pastorales ont montré que oui, les femmes assistent plus à la messe que les hommes, oui, les femmes se confessent plus. Mais est-ce qu'on peut en déduire directement des conclusions qui ont trait à leur foi? Ça, c'est très différent parce que au XIXe siècle, se rendre à la messe ou aller se confesser, c'est aussi un geste qui a une valeur sociale. Donc, on peut très bien ne pas se confesser, ne pas aller à la messe et pour autant marquer son attachement au catholicisme par bien d'autres biais. Et à l'inverse, aller se confesser et aller à la messe et ne pas être si attaché que ça à l'Église, à ses valeurs, à ses règles, etc. Donc, en fait, féminisation, oui, mais attention à ne pas non plus faire du XIXe siècle le siècle d'un catholicisme uniquement féminin, D'autant plus que ce déséquilibre entre les pratiques, par exemple le fait qu'il y ait beaucoup plus de femmes à la messe que d'hommes, ça date pas du 19e siècle, hein, ça date de bien avant, ça date déjà du 18e siècle. Donc, en fait, c'est juste que pour moi, quand on parle de féminisation, on enferme un petit peu l'analyse dans le cadre du féminin, en ne questionnant pas toujours, en fait, pourquoi on voit que les femmes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu réagi quand vous avez dit féminisation.
D'accord. Les femmes sont, à vous lire, elles sont considérées très positivement par l'Église. On les voit dans leur qualité, disposition à aimer, intercéder, convertir, sauver. J'allais dire, elles apparaissent comme des instruments de foi, mais il y a dans le mot instrument un côté un peu péjoratif, utilitariste, qui n'apparaît pas du tout au fond dans la profondeur, parce qu'il y a des lettres très profondes que vous citez largement, dans la profondeur des correspondances.
Oui, là aussi, c'est pas un discours spécifique à l'Église, hein, puisque en fait, les femmes sont investies à partir de la Révolution française d'une sorte de rôle de régénération morale du monde. Faut voir aussi que les gens à la sortie de la Révolution française, en particulier les mondes catholiques, vivent la sortie de Révolution comme un âge décadent, c'est-à-dire comme un âge d'or perdu, comme une crise des valeurs, comme une crise de civilisation. Et dans ce contexte-là, eh bien, différentes autorités vont considérer que les femmes sont des ferments de morale appelés à agir sur le monde. Mais le problème de ce discours-là, vous dites c'est très positif, certes, mais c'est aussi très enfermant. Parce que capacité à aimer, à intercéder, etc., oui, mais ça veut dire aussi que on fixe un rôle qui est relié à des qualités naturelles, mais en fixant un rôle aussi, on fixe des frontières à ce rôle. Et quand on dit elles sont là pour aimer, intercéder, etc., on leur donne un rôle fondamental dans la famille et dans la moralisation de la société par la famille, donc vous avez raison, il y a quand même un côté, peut-être pas utilitariste, mais stratégique en fait, parce que l'Église analyse les choses, voit bien que les rôles féminins, c'est d'abord des rôles d'influence dans la famille, donc joue de cette influence sur la famille pour préparer l'avenir, moraliser la famille, etc. Mais en même temps, c'est une idée extrêmement précise de là où doit être l'influence des femmes et là où elle ne doit pas être.
Ouais.
Donc, pour moi, la notion de positif-négatif, c'est un peu gênant parce que, enfin, c'est pas comme ça que je lis les choses. C'est plutôt en termes de quelle nature l'influence des femmes est présentée. Voilà, c'est ça pour moi, c'est ça qui m'intéresse.
Ce qui fait la qualité de votre livre, ce que je disais tout à l'heure sur votre délicatesse et le fait de ne pas le ranger précisément dans le positif ou bien dans le négatif. Est-ce que dans ces vies que vous présentez, dans ces correspondances que vous présentez, il peut y avoir une opposition entre la vie mondaine de ces personnes qui écrivent à leur directeur de conscience et avoir une sorte de vie cachée qu'elle déploie au fond par l'écriture?
Oui, exactement. Hein. C'est aussi un des éléments qui m'a beaucoup étonnée. La façon dont ce sont des vies qui sont clivées, enfin que je trouve clivées, au sens où les directeurs veulent absolument que ces femmes, et ces hommes d'ailleurs, respectent leurs devoirs sociaux. Parce que pour eux, le meilleur chemin vers le salut, c'est d'abord de respecter son devoir d'État. Donc à partir de là, il n'est pas question du tout de faire primer ses pratiques spirituelles, la prière, la retraite, sur les devoirs de mère, les devoirs d'épouse, les devoirs de famille. Mais quand on a posé ça, bah, le problème c'est que si les devoirs mondains, familiaux et conjugaux prennent une place énorme, et il n'y a plus beaucoup de place pour le reste et la vie spirituelle. Et en fait, les pratiques d'écriture, et notamment l'écriture au directeur, bah, c'est souvent la part cachée de l'expérience des personnes. Donc, le fait qu'on envoie son journal personnel, son cahier de méditation, c'est un espace en fait qu'on retire et qu'on abrite à toutes ces autres obligations. Donc oui, des vies cachées, et aussi des vies cachées, pas seulement en termes de visibilité, mais aussi des vies abritées parce que il y a aussi des conflits dans les familles sur le fait qu'on ne veut pas que les femmes soient trop dévotes, que les femmes risquent de faire primer justement leurs devoirs spirituels sur leurs autres devoirs. Donc, cachées aussi, parfois, cachées de ce que les autres pourraient dire, ce que les maris pourraient dire. Parce qu'on essaie d'éviter qu'ils interviennent ou qu'ils soient trop inquiets et qu'ils il demande l'arrêt de la direction.
Nous ne l'avons pas dit depuis le début de l'émission, mais est-ce que la direction de conscience reste quand même un exercice élitiste?
Oui, alors la direction de conscience telle que moi je la vois.
Encore une fois, des pontes, vous citez pas oui. Vous citez Dupanloup, oui. vous ne citez pas sans dénigrement la paysanne du coin qui demande un conseil spirituel. Ce sont des grandes dames qui demandent des conseils.
Alors, j'aimerais beaucoup citer la paysanne, mais la paysanne n'écrit pas. Donc moi, je peux pas citer quand j'ai pas de source. Vous voyez, c'est tout l'enjeu. C'est une pratique élitiste dans cette forme-là, c'est-à-dire dans la forme épistolaire, dans cette forme très inspirée en fait du XVIIe siècle, vraiment dans l'écrit. Mais par contre, et je suis très d'accord avec vous, il faudrait aller voir ce qui se passe du côté des milieux plus populaires. Mais le problème, c'est que la direction très informelle, la confession, ce sont des pratiques orales. Mmh. Et donc, tant que moi, j'ai pas des traces, l'histoire comme connaissance par traces, je peux pas travailler. Mmh. Ce que je vois, par contre, c'est parfois des femmes ou des hommes qui sont de milieux un peu intermédiaires. J'en parle pas beaucoup dans le livre, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Émilie Serpin, qui est institutrice, c'est-à-dire qui donne des leçons dans des familles nobles, mais qui sert souvent d'écrivain public parce que les domestiques du village viennent lui parler parce qu'elle a des compétences et donc elle observe la vie des paroisses. Et elle, ce qu'elle dit, elle a elle-même son directeur, elle dit qu'elle va quasiment tous les jours voir le curé ou le jésuite du coin avec qui elle a sa direction, et ils discutent. Et en fait, je pense qu'il y a tout un tas de formes comme ça, de directions plus diluées, moins dans ces formats-là épistolaires, qui existent, mais malheureusement, comme historien, c'est très difficile d'y avoir accès. Mais ça veut pas dire qu'il faudrait, enfin voilà, il faut surtout pas dire que la direction de conscience est une pratique purement aristocratique ou bourgeoise. C'est simplement que nous, on en a cette version-là parce que c'est la version écrite à laquelle on peut avoir accès.
Alors, vous décrivez les mondanités, c'est un monde qui se, qui se côtoie. C'est-à-dire un prêtre sorti du cru n'a pas forcément accès facilement à une direction spirituelle d'un aristocrate. On est entre soi, mais bon, il y a des exceptions, vous les présentez d'ailleurs. Et puis, il faut aussi limiter la proximité, c'est-à-dire que ces directeurs de conscience que vous présentez, ils veulent pas passer leur temps avec leurs dirigés non plus.
Non. Enfin, ça dépend lesquels. Oui, non, mais ça, c'est un problème fondamental. C'est que les directeurs sont toujours très inquiets à l'idée du mélange des genres. C'est-à-dire que ils sont toujours très ennuyés quand il faut aller dîner à côté de leur dirigé, quand il faut réfléchir aux vacances. Enfin, il y a quand même le risque d'oublier le statut de chacun, d'oublier l'autorité spirituelle. Et parfois, les gens oublient qu'ils sont pas en train de parler à leur voisin de table ou à leur collaborateur dans une association charitable, ouais, mais à leur directeur spirituel investi d'une autorité qui est celle de l'Esprit Saint. Enfin, c'est quand même pas... Donc, parfois, l'Esprit Saint se dilue dans les belles assiettes. Je crois que c'est l'abbé Munier qui disait ça, l'abbé Munier qu'on appelait le confesseur des duchesses. C'est aussi une pratique mondaine parce que c'est une pratique de distinction. Obtenir la direction de...
Il y a une religiosité ostentatoire.
Oui, c'est-à-dire que dire qu'on est dirigé par Monseigneur Dupanloup, c'est se poser quand même quelque part. Et d'ailleurs, certaines femmes montrent les lettres dans les salons, au cours de leur visite. Elles se privent pas de dire qu'elles ont reçu une lettre la veille. Donc c'est une pratique de distinction. Et comme c'est une pratique de distinction, on tolère très mal d'être dirigé ou de devoir se confesser à quelqu'un qui a un statut inférieur. Parce que le problème de la confession, c'est que c'est une obligation pour pouvoir aller communier. Donc on n'a pas toujours son directeur ou un super confesseur venu du Faubourg Saint-Germain à proximité. Donc par exemple, Artémine de Menton, quand il faut qu'elle aille se confesser au vicaire qui vient d'arriver, elle se moque de lui. Elle se moque de son incapacité à parler. Alors lui, il est extrêmement gêné parce qu'il voit arriver donc la comtesse de Menton. C'est quand même la grande dame du coin. Et puis, elle se moque de lui. Elle a des rictus, elle ironise. Et le directeur, donc Monseigneur Dupanloup, est obligé de la rappeler à l'ordre en lui disant que, enfin, quel que soit le statut de l'homme d'église qu'elle a en face d'elle, c'est la même chose. Ouais. Et oui, mais elle l'entend pas de cette oreille. C'est-à-dire qu'elle résiste beaucoup à ce... Donc il y a une entre-soi aussi. On va pas confier ses secrets à une personne dont on juge qu'elle n'est pas digne ou pas capable de comprendre ce que ça implique, en fait.
Pardonnez-moi l'expression, mais on peut s'engueuler avec son directeur de conscience.
On s'engueule tout le temps. Mais oui, oui. Mais oui, parce que... Enfin, c'est toujours cette tension entre autorité spirituelle et puis inscription sociale. C'est-à-dire que ces gens aussi qui prennent un directeur, ils estiment qu'ils ont un certain nombre de compétences et de capitaux. Et bien souvent, ils discutent, ils négocient, ils contestent les conseils reçus. Alors, ça peut être discuter des conseils culturels. Donc, par exemple, toujours Madame de Menton qui veut pas se plier au programme de lecture de Monseigneur Dupont-Loup, qui veut pas arrêter de lire, donc elle finit par lui avouer. Alors elle avoue de temps en temps, mais je pense que la plupart du temps elle fait comme si les consignes n'existaient pas. Et puis ça peut aller jusqu'à des grosses ruptures où la dirigée dit je sais mieux que vous comment je fonctionne, Dieu me demande cela, je n'ai pas besoin de votre avis. Et ça arrive aussi. Et là le contrat initial est brisé, puisque le principe de la direction, c'est quand même de reconnaître au directeur une autorité qui vient de Dieu. Et donc la capacité à discerner les plans de Dieu pour soi. Donc dire à son directeur, je sais mieux que vous ce que Dieu veut pour moi, c'est le renvoyer à son incompétence, en fait, et lui dire qu'il est incompétent.
On voit qu'il y a une sorte de dialogue et l'anticléricalisme, au fond, qui a été produit à cette époque-là pour critiquer ces directions de conscience, me semble un peu léger dans la mesure où, à chaque fois, il y a cet échange, ce dialogue entre la dirigée et le directeur. Est-ce que le directeur, vous montrez hein, plusieurs lettres où, au fond, le dirigé demande au directeur de régler, je ne sais, par exemple, des problèmes de couple, il joue un rôle de thérapeute, au fond?
Oui. Sur l'anticléricalisme, ce qu'il faudrait ajouter, c'est que même les gens, enfin même les catholiques les plus croyants, les plus fervents, sont imprégnés des catégories de l'anticléricalisme. C'est-à-dire qu'il y a une attention extrême à ne pas paraître trop proche, à ne pas risquer le soupçon, y compris chez les directeurs. J'ai des directeurs qui refusent, par exemple, d'aller au restaurant avec des femmes, au titre de... Oui, mais enfin, on est quand même dans des mondes où partager un repas... Mais comme chacun sait que c'est le directeur et la dirigée, on veut pas prêter le flanc à des accusations de débauche, de... voilà. Donc, aussi, enfin, c'est pas... L'anticléricalisme n'est pas qu'une représentation. Ça a aussi une influence sur la manière dont chacun se comporte et dont chacun ajuste sa proximité, en fait, à l'autre. Je ne me souviens plus de la question suivante.
Est-ce que, au fond, ce ne sont pas des thérapeutes ou même des conseillers parfois conjugaux qui n'ont pas arbitre, mais si on peut le dire un peu.
Le grand reproche de Michelet, c'est de considérer que les directeurs de conscience et les confesseurs interviennent dans les familles de manière illégitime, interviennent dans les couples, etc. Mais ce que Michelet n'a pas vu, c'est que c'est les couples qui demandent de l'aide aux directeurs, bien souvent. Enfin, en tout cas, moi, dans mon corpus, c'est pas les directeurs qui vont poser des questions, est-ce que tout va bien avec monsieur ? Pas du tout, c'est plutôt, il y a un problème, et on va solliciter le directeur pour essayer de voir comment on règle le problème. Et pourquoi on le sollicite ? Ben parce que, d'abord, on sait que ça ne s'ébruitera pas. Or, les questions de sexualité dans la noblesse, dans la grande bourgeoisie, ça s'ébruite, c'est risquer son honneur, sa respectabilité, éventuellement le mariage de ses enfants. Donc, c'est des secrets qui sont très risqués, en fait. Hein, un peu comme les secrets de fortune, par exemple, les revers de fortune ou ce genre d'informations. Donc, s'adresser au directeur, c'est être sûr d'abord que le secret ou l'information ne sortira pas de l'échange. Et puis, c'est aussi compter sur sa bonne connaissance du sujet. C'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, les hommes d'église, théoriquement, n'ont pas eux-mêmes de famille, etc. Mais c'est compter sur le fait que ce sera un intermédiaire perçu comme neutre par les différentes parties. Perçu comme neutre parce que on postule qu'il est forcément bienveillant et qu'il ne cherchera pas à semer la zizanie ou à aggraver les choses. C'est quelqu'un qui est perçu comme un peu en dehors des intérêts, immédiats, de l'environnement, dont on peut compter sur le discernement, en fait. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'autre possibilité de parole, en fait. La thérapie conjugale et la médecine, à ce moment-là, ce n'est pas une option pour ces couples-là.
Et c'est là, et en cela, c'est une réponse à l'anticléricalisme, c'est là où, véritablement, il y a ce que vous appelez un espace de liberté, hein, liberté d'expression, mais dans le secret professionnel.
Exactement. Pour moi, ce qui produit cette liberté, c'est la possibilité d'abord d'écrire, parce que quand on écrit, on réfléchit à soi, on récapitule, on se remémore l'expérience, on la reformule, on la requalifie parfois. Mmh. Donc il y a l'écriture, et puis il y a le secret, parce qu'on sait qu'on ne sera pas puni pour ce qu'on a écrit.
Oui.
Parce que le problème de la plupart des espaces, que ce soit les espaces amicaux, l'espace de la discussion entre mari et femme, ou d'autres espaces, eh bien, le risque, c'est les conséquences directes, hein, c'est d'être, de perdre en respectabilité, en honorabilité, de perdre des ressources, de, enfin, par exemple, sur les questions d'adultère ou les choses qui peuvent avoir des conséquences sociales dans la vie extrêmement graves, eh bien, là, on peut dire ce qu'on veut au directeur et au confesseur d'ailleurs. Il y a des exemples qui sont pas dans le livre, mais l'abbé Huvelin, il explique que, il a la même comtesse qui vient le voir 3 années de suite pour confesser un avortement.
Ouais.
3 années de suite. Et ça, à qui d'autre on peut le dire, en fait? Personne. En tout cas, à ce moment-là, personne.
Il y a des situations vaudevillesques, hein, quasiment, que vous décrivez. Il y a des situations plus dramatiques, notamment les violences conjugales.
Oui, ça fait partie des sujets tabous dont on ne peut pas discuter ailleurs. Oui, des violences physiques, violences sexuelles aussi, avec des maris qui abusent de leur bon droit et qui pensent qu'ils sont dans leur bon droit en sollicitant leurs femmes. Et là, ça pose beaucoup de problèmes en fait au directeur et parce que. On est aussi dans un contexte de bataille au sujet du statut du mariage. Ça aussi, c'est un autre contexte qu'il faut avoir en tête en lisant. C'est que l'Église cherche à protéger le mariage comme contrat spirituel. Enfin, comme n'étant pas un contrat, en fait. Comme étant un engagement spirituel. Or, c'est le moment où la bataille pour le divorce fait rage jusqu'à la possibilité de divorcer pour faute en 1884. Mais un directeur, lui, il va vouloir absolument défendre le mariage indissoluble. Et le problème, c'est que les questions des violences sexuelles, des violences physiques, eh bien, un directeur peut pas répondre « Oui, quittez votre mari parce que votre mari est abusif. » Et si vous lisez les manuels conjugaux, les manuels de morale conjugale, y compris écrits par exemple, quelqu'un comme Monseigneur Dupanloup, eh bien, la seule solution trouvée, c'est de prêcher la douceur aux maris. Or, les maris, on a beau leur prêcher la douceur, ça les rend pas forcément doux. Donc, dans ces cas-là, les directeurs essayent d'accompagner, entendre la souffrance, conseillent des lectures, essayent de suggérer des choses. Mais la plupart du temps, ça achoppe parce que ils peuvent pas conseiller la seule véritable solution dans certains cas, qui est de partir ou de se séparer. Ils ne le font jamais. À aucun moment dans mon corpus, je n'ai croisé de directeur encourageant des femmes à se séparer, y compris sur une séparation de corps sans divorce.
Oui, il y a des enjeux de patrimoine aussi que vous décrivez très bien.
Des enjeux de patrimoine, des enjeux
de filiation.
Parce qu'on
se marie d'abord pour le patrimoine, pas forcément pour l'amour.
Alors, surtout pas pour l'amour. Enfin, en tout cas, fonder un mariage sur l'amour serait une erreur. Mais là, ça, c'est pas que l'Église non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas que dans le monde catholique. On se marie pour remplir un devoir d'État et pour pouvoir défendre et prolonger les intérêts de la famille. C'est les deux choses qui sont pas séparables. En fait, ça serait aller trop vite de penser qu'un mariage arrangé, c'est un mariage financier. Il n'y a pas que ça. Dans la conception catholique du mariage, il y a aussi tout ce qui a trait à la conception de ce que c'est qu'une vie utile et une vie bonne, en fait. Hein. Mmh. Et une vie utile, c'est productive, c'est une vie dans laquelle on a des enfants, dans laquelle on a un état, dans laquelle la sexualité est régulée dans le mariage. Et s'il n'y a pas ça, c'est le risque d'une vie stérile. Donc c'est pas que l'enjeu de absolument d'associer des patrimoines. Certes, il y a ça, mais il vaut mieux se marier avec quelqu'un qui a pas de patrimoine que ne pas se marier du tout, en fait. Hein.
Un des grands apports de votre livre, c'est que on voit le catholicisme du XIXe siècle comme un j'allais dire, dans sa dimension sensible, je vous cite, fondée sur le développement d'un lien affectif avec Dieu, voilà, l'image d'Épinal, les images de communion.
Et Jésus à l'eau de rose.
Voilà, exactement. Or, à vous lire, j'ai plus l'impression que notre début de 21e siècle est beaucoup plus sensible et beaucoup plus dans la notion d'amour que ce 19e siècle qui m'apparaît plus pragmatique. Vous évoquiez quand même le devoir d'État. Le premier rôle du mariage, c'est le devoir d'État.
Ça, c'est aussi un élément qui m'a un peu donné du fil à retordre, parce que vous parliez de féminisation tout à l'heure, aussi une des hypothèses importantes des historiens, c'est de considérer que cette féminisation est allée jusque dans les motifs de piété et la spiritualité, avec l'insistance sur la Vierge Marie, sur des qualités perçues comme féminines, la sensibilité, l'amour, la douceur, la capacité à pleurer, à s'émouvoir, etc. Or, moi, les gens que j'ai étudiés, tout ceci, ça les laisse globalement de marbre. C'est-à-dire que ils se sont un peu sceptiques face à ces formes-là d'expression de la foi. Même les directeurs sont sceptiques, parce qu'ils considèrent que si on fonde la foi sur le sentiment, on va pas très loin dans la vie spirituelle. Donc moi, j'ai des gens qui ont des doutes, qui cherchent des moyens de vivre plutôt la relation à Dieu comme une amitié, une solide amitié. Je crois que c'est comme ça qu'elle le dit, Artémine de Menton. Elle cherche une solide amitié et elle cherche pas cette effusion, voire même l'effusion mystique où le sentiment et l'émotion trop fortes sont dangereux parce que ne sont plus contrôlables, ne sont plus contrôlables par le directeur. Sortent des sentiers battus. Donc, à mon avis, il faut relire un peu cette idée du catholicisme 19e comme un catholicisme sensible, parce que le devoir fondamental d'un catholique, c'est son devoir d'État, à quoi on donne une valeur spirituelle. Mais c'est l'acte social à valeur spirituelle, et pas simplement le fait de s'émouvoir devant la statue de Jésus, enfant. Et voilà, ça primera toujours, si vous voulez.
Alors, dans votre livre, vous utilisez à plusieurs reprises, vous n'en faites pas... l'usage systématiquement, mais la première personne du singulier. Il y a un personnage que vous avez plus particulièrement apprécié, ou en tous les cas une relation, autant peut-être dans sa dimension intellectuelle qu'affective, dans la qualité de la personnalité, une relation que vous avez particulièrement appréciée.
Voilà, surtout une qui m'a beaucoup irritée, mais si vous voulez, on en reparlera. J'aime beaucoup la discussion entre l'abbé Frémont et Madame d'Adhémar, parce que pour moi, c'est ce que la direction peut donner de meilleur, en fait. Alors là, évidemment, je sors un peu de mon rôle d'historienne pour endosser un peu mon avis plus personnel.
C'est la fin de l'émission, vous avez le droit.
D'accord. parce que dans cette relation-là, en fait, on les voit qui grandissent tous les deux dans une discussion qui est à la fois intellectuelle, mais aussi fondée sur la connaissance mutuelle, où on ne sait plus très bien à la fin qui est le directeur de l'autre. Mais voilà, il y a un échange, ils discutent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont lu. Il y a un vrai accompagnement mutuel vers la recherche, qu'elle soit intellectuelle ou affective d'ailleurs. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est sans doute la relation qui ressemble le moins pour moi à une direction. Donc vous voyez, c'est un peu paradoxal.
Ah, peut-être un dernier mot sur les hommes,
oui.
En tous les cas, puisque nous avons beaucoup évoqué les femmes. Les hommes se saisissent aussi de la direction spirituelle, mais on les voit toujours un peu plus en retrait.
Oui, alors par exemple, la dernière histoire du livre, c'est celle donc d'Antoine, qui est un jeune homme qui a un directeur depuis l'enseignement secondaire jusqu'à sa vie d'adulte, et d'ailleurs qui est très souvent mentionné dans les carnets de Baudrillard.
Qui a un père condamné.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est une histoire aussi là. On oscille entre le vaudeville et le tragique, hein, puisque en fait c'est un jeune bourgeois dont le père était un notable qui a brûlé la fortune familiale dans le jeu et l'entretien de maîtresse, et donc il se retrouve en fait confronté à des conflits de normes. C'est-à-dire qu'on lui demande de se marier, mais il peut pas se marier dans son milieu parce qu'il n'a pas le financement pour ça. Il n'a plus la fortune qui correspond à son statut social. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sollicite son directeur, entre autres, parce qu'en fait il demande au directeur de trancher des conflits de normes, c'est-à-dire des contraintes qui sont pas compatibles. Donc, demande de préciser où est son devoir. Après, dans la direction des hommes, il y a quand même la question du contrôle de soi et de la sexualité qui apparaît de manière beaucoup plus nette, où le directeur est aussi là pour essayer de réguler les pulsions, le désir, dans un autre contexte aussi qu'on a un peu moins évoqué, qui est le contexte de la lutte contre la masturbation, en fait, et l'énorme inquiétude qu'il y a médicale autour du fait que ça fait prendre le risque que les hommes arrivent au mariage en ne pouvant plus faire d'enfants, ce genre de choses. Donc le directeur, là, il a quasiment un rôle parfois hygiéniste, puisque dans le cas d'Antoine, il tient un registre de qu'est-ce qu'il fait, à quel moment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et c'est ça, ces enjeux-là, on ne les trouve pas chez les femmes, très clairement. La question de la maîtrise de soi et de ce que ça implique, en fait.
Au plus près des âmes et des corps, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle, je ne l'ai pas dit, je vais me faire disputer, paru au PUF, aux Presses universitaires de France. Une dernière question, Caroline Muller, votre couverture, des plumes. On pense aux âmes légères, c'est...
Oui, pour moi, c'est une métaphore de l'allègement. C'est aussi un petit clin d'œil aux correspondances, voilà. Ouais. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de faire entrer le lecteur ou la lectrice dans le livre sans l'enfermer dans une signification. Parce que je tiens beaucoup à la liberté de mes lecteurs et de mes lectrices.
Eh bien, merci beaucoup. Je recommande vraiment chaleureusement cet ouvrage extrêmement intelligent et extrêmement délicat. Donc, Caroline Muller, Au plus près des âmes et des corps, paru chez PUF, une histoire intime des catholiques au XIXe siècle. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.